Pour rejoindre le, vous disiez le rejet du conservatoire, ce qui a été évoqué aussi, le conservatoire qui a été fermé pendant des mois, qui a été une souffrance pour beaucoup. Donc pour resserrer justement sur alors, qu'est-ce qui fait que ce conservatoire, que nous n'ayons pas eu les textes adaptés par rapport à cette crise pour que nos conservatoires restent ouverts, en sachant qu'on a su prouver aussi qu'on a été capable, les collectivités territoriales, de répondre aux questions de protocole, voire d'organiser différemment les cours s'il le fallait, etc. Ça a été fait. Et c'est là que c'est le vif de notre question, justement, cette singularité de cet enseignement spécialisé. En France, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on peut aller pour demain? Et c'est là que je vais donner la parole, justement, peut-être à Philippe Lemoyle, qui va pouvoir nous éclairer là-dessus, en redonnant quelques définitions, justement, quelques enjeux.
C'est un peu un défi, quand même. Oui. Non, mais je peux partager quelques réflexions qui viennent, effectivement, de cette fameuse réunion où tout le monde autour de la table disait, mais comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous voit plus. On ne nous voit pas. Et donc, sur cette question-là, c'est là où j'ai dit il y a effectivement un problème systémique. Si on ne nous voit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir absolument retourner le gant, c'est-à-dire trouver une solution pour reprendre pied et devenir visible. Alors, du coup, la première chose qui m'apparaît, c'est que, en fait, le conservatoire, enfin, l'espace des enseignements artistiques spécialisés, même au-delà du conservatoire, parce que c'est vrai aussi des écoles municipales, ont une caractéristique, c'est qu'elles sont dans un émiettement d'interlocuteurs administratifs. Toutes ont une collectivité territoriale au départ, c'est ce que nous partageons tous. Donc c'est pas la même, donc c'est une collectivité territoriale parmi 36 000 et quelques. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que nous avons comme interlocuteur le ministère de l'Intérieur, la DGCL, pour tout ce qui est les cadres d'emploi. Nous avons pour interlocuteur la DGCA pour tout ce qui est les points de repère de contenu, c'est-à-dire les diplômes des enseignants, les diplômes des directeurs, les schémas d'orientation pédagogique quand ça existe, et le classement. On reviendra là-dessus. Et nous avons désormais un autre interlocuteur, qui est la DG2TDC, j'ai encore du mal moi-même à le dire, qui est la nouvelle délégation générale au territoire, à la transmission et au développement démocratie culturelle, qui est compétente sur les pratiques artistiques et culturelles, les pratiques en amateur, l'éducation artistique et culturelle. C'est quand même un peu compliqué. Donc, en gros, j'ai un souci, je m'adresse à qui? Et ça, là, je me dis, ben, ouais, là, il y a forcément un moment où il faut peut-être commencer à réfléchir à ce qui pourrait faire que il y ait un endroit de parole qui se constitue. Et je me disais, mais c'est quand même étrange, par exemple, en matière d'éducation artistique et culturelle, il y a un haut conseil. En matière d'enseignement supérieur, il y a désormais culture, il y a un conseil national des enseignements artistiques supérieurs, recherche de l'art et de la culture. Peut-être que là, il y a quelque chose désormais à se dire. Et ça paraît d'autant plus important que, deuxième temps, effectivement, la crise a mis à jour alors, non seulement cette non-visibilité, mais aussi des réflexes de pensée. C'est-à-dire qu'il y a des automatismes administratifs qui ont surgi, qu'on a vus à l'œuvre, et qui sont effectivement assez loin du réel. Donc déjà, il faudrait pouvoir modifier ces réflexes, mais je vais en citer un ou deux, enfin on les connaît tous par cœur. Hein. C'est pas obligatoire, donc c'est pas essentiel. C'est pas prioritaire. Conservatoire, ça concerne l'élite. C'est un truc qui existe encore. Hein. L'enseignement artistique, c'est pour les enfants. D'où les problèmes qu'évoquait Muriel. Et le dernier, puisque pour eux, ça me concerne plus directement, mais la danse, c'est du sport. Ce qui nous a quand même vraiment décoiffé, je veux dire. On a eu un voilà. Oui, mais quand on en arrive à ça, c'est dire à quel point on n'arrive pas à identifier correctement dans l'appareil administratif, dans la pensée, je dirais, de ceux qui sont amenés à prendre des décisions, on n'arrive plus à identifier ce que c'est. Une des choses qui était soulevée aussi, qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges qu'on avait eus, c'était la question de la logique du tout ou rien. Soit on pouvait faire, soit on ne pouvait pas faire. Mais on n'a jamais été capable d'imaginer que peut-être il fallait en faire moins, mais que tout le monde puisse continuer à en faire, par exemple. Ça, je trouve que là, c'est une question aussi qui nous renvoie à des réflexes politiques, quoi. Puis la dernière, alors effectivement, la non-prise en compte absolue des écoles municipales d'art dans les protocoles sanitaires. Enfin, c'est quand même aberrant de se dire que, à aucun moment, on a pensé qu'il y avait quand même des élèves dans ces écoles, des professeurs dans ces écoles, et qu'il fallait peut-être leur proposer des solutions. Si on met tout ça bout à bout, on se dit, oui, il y a un joli chantier, et la sortie de crise sanitaire, à mon avis, est le moment vraiment à saisir pour faire avancer les questions au regard de cette vérification. D'autant plus que d'autres vont se saisir de la sortie de crise, probablement. Pour information, à la suite de la danse est un sport et de la tension autour de cette question, l'Assemblée nationale a déclenché une mission qui a été confiée à deux députés pour savoir s'il n'y avait pas lieu d'aller vers une co-tutelle de la danse par le ministère des Sports et le ministère de la Culture. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui s'est joué en 1989. Je ne sais pas ce qui sortira de cette mission d'études parlementaires, mais c'est dire à quel point on est à un endroit touchy, comme on dit. Il me semble que du côté du théâtre, c'est l'éducation nationale qui a des intentions aussi intéressantes sur le fait que le théâtre...
Là, Patrick Zuzala peut peut-être nous annoncer des choses.
Non, sinon continuer. Non, pas annoncer. Donc, en fait, beaucoup de questions se posent et je me disais au moins trois mots, à mon avis, peuvent caractériser, je pense, le rapport à l'enseignement artistique spécialisé. C'est un, appétence, deux, apprentissage, je tiens à ce mot, et trois, accomplissement. Donc, c'est ce que j'appelle les trois A. Appétence, parce que c'est vrai qu'on vient vers quelque chose. Alors, l'environnement va nous y pousser, mais on ne vient pas au conservatoire contraint et forcé. Enfin, donc, ça se fait de moins en moins, quand même, j'imagine. Apprentissage, parce que je pense que c'est la clé pour que tout ne soit pas éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire qu'on est, on est à un moment où on va construire des parcours de consolidation de compétences. Voilà. Ce que j'appelle un apprentissage, c'est que ça, à un moment donné, ça conduira à des compétences. Et accomplissement, c'est dans le sens où, effectivement, je pense qu'il faut absolument entrer désormais dans cet espace. Enfin, la dernière réforme du Code de l'éducation, de l'article L216-2 qui organise les conservatoires, a mis en place les CPES, les agréments pour les CPES. En faisant ça, ça a permis de dissocier définitivement le classement, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on a des contenus qui vont amener à un classement, de l'agrément qui est autre chose. L'agrément, c'est effectivement dans des établissements qui ont les reins solides, qui ont les flux pour pouvoir construire des espaces pré-professionnalisants. Le conservatoire n'est pas fait principalement pour ça. Il y a des conservatoires qui le font. Donc c'est réaffirmer quoi ? C'est effectivement cet espace de l'accomplissement. C'est-à-dire qu'on fabrique de la personne, on fabrique de la présence au monde et on fabrique du citoyen à travers les enseignements artistiques. Moi, c'est ma conviction absolue. Là où on le fabrique différemment de l'EAC, c'est qu'effectivement, la question de l'apprentissage et des compétences à construire est mise en avant. Et je pense que si on renonce à cette dimension-là, on risque très vite de passer ailleurs. J'ajoute quand même que l'autre enjeu d'opportunité, hein, c'est, il ne vous a pas échappé, qu'il y a une loi en discussion en ce moment au Parlement sur la différenciation, la déconcentration et la décentralisation. Ce qui veut dire plusieurs choses. La première, c'est effectivement, comme il était signalé, chaque territoire a ses caractéristiques. Est-ce que ça veut dire qu'il peut s'y passer des choses radicalement différentes, quel que soit le territoire, ou au contraire, est-ce qu'on cherche aussi à créer des cadres partagés ? Ça va être une vraie question, et ça va l'être d'autant plus avec la dimension de la différenciation qui apparaît. La deuxième chose, c'est que très vraisemblablement, dans ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement générique, la question des classements va être déconcentrée assez rapidement. Et ce qui changera aussi, de manière importante, la donne. C'est pour ça que c'est le moment ou jamais de se saisir toutes ces questions, parce que ces arbitrages-là, ils sont un peu indépassables. Ça se joue à un autre endroit que nos discussions.